Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Alors bonjour Agrasso.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
En tant qu'artiste peintre, je m'appelle Agrasso. Pourquoi Agrasso ? Parce que mon nom d'épouse c'est Grasso et que mon prénom et mon nom de naissance commencent par des A. Et que au fil de la vie, j'ai développé une petite superstition pour les A. J'ai eu beaucoup de A dans ma vie,
ah oui ?
Beaucoup de A sur mon chemin. Et quand j'ai décidé de choisir un nom de, non pas de plume, mais de pinceau, de brosse, je me suis dit qu'un A ne pouvait pas faire de mal.
Ouais.
Donc, je suis devenue Agrasso.
D'accord. Voilà.
Alors, comme beaucoup de peintres, je peins, je vais dire depuis toujours, mais j'ai longtemps eu du mal à montrer ma peinture, parce que j'avais l'impression que peut-être que je me dévoilais beaucoup, et mon tempérament est d'être plutôt réservé. Parallèlement à cette activité de loisir, j'ai fait carrière dans le métier du conseil et de la formation. Activité extrêmement prenante qui m'a pas mal empêchée de peindre autant que j'aurais voulu. Et puis là, j'ai essayé de renverser un petit peu les choses, et en tout cas les proportions, et je peins davantage que je ne me consacre à mon métier de consultante.
D'accord.
Donc voilà.
T'as commencé en tant que consultante dès le début de ta carrière ?
Oui, plutôt formation, donc formation humaine, formation communication. Je suis tout le temps restée dans la même entreprise. Au fil du temps, l'entreprise a évolué vers des activités qui sont davantage des activités de conseil. Donc j'ai évolué avec elle. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va comme ça, le conseil. Je voudrais maintenant me consacrer à quelque chose qui me tient à cœur, à savoir la peinture. Sinon, qu'est-ce que je peux dire en complément de cette présentation ? Je ne dirai pas l'âge, parce que je trouve que ça change tout le temps, et puis que ça commence à m'impressionner moi-même, l'âge que j'ai. Et par contre, ce que je peux rajouter, parce que je crois que ça s'entend, je viens du Midi de la France. Voilà. J'ai ma maison et mon atelier à une vingtaine de kilomètres d'Aix-en-Provence.
D'accord. Voilà. Et t'as un atelier depuis toujours ?
Non, pas depuis toujours, mais depuis que j'ai décidé de peindre davantage, c'est-à-dire une dizaine d'années quand même.
Ouais.
Et c'est vrai que l'atelier, c'est un lieu essentiel. Il est arrivé parfois pour un ensemble de raisons que mon atelier ne soit plus disponible parce que je l'ai déménagé, il y a eu des travaux à la maison, enfin, et j'arrête de peindre. J'ai besoin de cet endroit. J'ai besoin de cet endroit où j'ai tout ce qui m'est nécessaire, que ce soit sur le plan du matériel ou des sources d'inspiration ou des piles de revues, puisque dans ma peinture il y a aussi pas mal de collages. Et quand je suis privée de cet espace, j'arrive plus à peindre.
Est-ce que ton activité de consulting et de conseil influe sur ta manière de gérer ton travail artistique ?
Oui, peut-être. J'ai un peu du mal à dire avec précision de quelle façon, mais je pense que on peint avec tout ce qu'on est, avec toutes les expériences de sa propre vie, et je pense que le métier que j'ai fait m'a amené à faire la peinture que je fais et m'a amené aussi à envisager la promotion entre guillemets de ma peinture.
Ouais.
Comme je le fais, c'est-à-dire que je sais qu'il faut consacrer du temps, consacrer des moyens. Qu'il faut tenir sur la durée, encaisser des déceptions, enfin je sais tout ça.
Oui.
Ça, je l'ai appris dans mon métier du conseil et je le transpose dans la peinture. Après, sur ma façon de peindre, je ne sais pas, mais sur le sujet d'inspiration majeur qui est la figure humaine et la figure féminine en particulier, je pense qu'il y a aussi un petit peu du métier que j'ai fait. Hein, j'ai passé un certain nombre d'années, enfin ça se compte en dizaines d'années, à observer des gens. Ma situation de travail, c'était la Réunion.
Oui.
Et j'étais obligée d'observer, de comprendre les réactions, même quand elles n'étaient pas exprimées de façon explicite. Donc j'ai beaucoup regardé des visages pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête des gens qui participaient à ces réunions. Et peut-être que ça a joué dans le sujet que j'ai choisi de développer. Je pense que ça a dû un peu jouer.
Ouais.
À force de regarder des gens. Je crois que quand j'ai le crayon à la main, ce sont des visages qui expriment, qui sont peut-être pas très expressifs a priori, mais quand même un peu.
Est-ce que tu as travaillé pour des projets culturels ou artistiques
dans le cadre de mon travail?
Ouais.
Oui, j'ai travaillé en lien avec la culture. Alors, il y a relativement longtemps, on avait été chargé par le ministère de la Culture de faire tout un cycle de formation qui avait pour thème développement des entreprises culturelles. Donc là, on travaillait avec toutes sortes d'entrepreneurs culturels, mais principalement quand même des gens du monde du théâtre,
ouais,
pour les aider à développer leur activité professionnelle, à se professionnaliser justement, comme on disait tout à l'heure, et à être autonome, à créer un ou deux emplois, à être autonome sur un plan économique. Donc voilà, on avait conduit ce projet. Après, il y a eu deux autres projets auxquels j'ai participé, j'allais dire en première ligne. D'abord, la création du service des publics du Louvre.
Ouais.
Donc, le service des publics, c'est en gros, à cette époque-là, au Louvre, il y avait bien sûr les conservateurs, la caste noble et dominante du Louvre, c'est les conservateurs. Après, il y avait l'accueil régie, la vente des entrées, tout ça. Et entre les deux, la direction du Louvre avait décidé de regrouper un certain nombre d'activités, il avait appelé direction des publics.
Mmh.
C'est-à-dire tous les gens qui font des activités pédagogiques pour des publics différents.
Ouais.
Le but à l'époque était que le Louvre atteigne l'objectif de 7 millions de visiteurs par an. Et je crois que depuis, parce qu'il devait être très en dessous, et la dernière fois que j'ai lu un document sur le Louvre, je crois qu'ils sont aujourd'hui à 10 millions. C'était il y a environ une quinzaine d'années.
Ça. Ah oui, d'accord.
Et puis après, j'ai travaillé sur le même sujet, c'est-à-dire création d'une direction du public au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq,
ouais,
qui est un musée dont la spécialité caractéristique est d'être un beau musée d'art brut. Et puis après, comme on avait une activité d'édition de revues, on avait eu un temps le projet de faire une, justement, pour tous les musées petits et moyens qui n'ont pas de direction des publics, donc, parce qu'à cette époque-là, on était très imprégné direction des publics, c'est-à-dire comment faire pour faire venir des gens qui ne viennent pas au musée habituellement, s'adapter mieux à des besoins pas toujours formulés clairement. Donc on était beaucoup dans cette thématique, dans cette problématique, et on avait eu une idée qui n'a pas vu le jour parce que à un moment donné ça s'est un peu enlisé puis ça s'est arrêté, de créer une revue dans laquelle les musées un petit peu à tour de rôle présenteraient leur collection permanente. Mais le projet, après, s'est arrêté, il n'a pas vu le jour.
Ah, c'est vraiment dommage ça, parce que ce serait hyper intéressant. Mmh. Ouais.
Peut-être que ça aurait été plus facile, mais nous, on n'était pas là-dedans de faire un site internet un peu du même monde. Je crois que ça existe plus ou moins, d'ailleurs. Donc voilà ce qu'a été l'interface entre mon activité de peintre et puis mon activité de consultante.
Alors du coup, tu as mis en place des choses pour développer des projets artistiques.
tu mets en place des choses pour développer ton projet artistique. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait pour les autres que tu n'arrives pas à faire pour toi? Ou à l'inverse, des choses qu'il faut tout le temps faire et que tu es bien contente de savoir faire?
Moi, j'ai plutôt travaillé avec des musées.
Oui.
Donc, voilà. Par contre, je pense que mon activité de consultante, et en plus, on a été les dirigeantes du cabinet de conseil avec mon mari, ça m'a appris beaucoup de choses. Je sais que le chemin est long. Ce cabinet, il existe depuis plus de 40 ans. Je sais que bah, il faut avoir de la patience,
oui.
Que les résultats, on les a pas tout de suite. Malgré ça, il y a des moments de découragement, mais voilà, ça je l'ai appris avec mon activité de consultante, qu'il faut mettre des moyens, que les choses ne viennent pas toutes seules. Et c'est sûr que c'est pas facile, parce que peut-être que en tant qu'artiste, on a encore plus besoin de petits succès, de petits succès qui viennent nous encourager, nous donner envie de continuer. Je sais qu'il faut aussi se renouveler, tout en restant fidèle à soi-même. Donc tout ça, je l'ai appris aussi dans mon activité de consultante.
Est-ce que tu sais à peu près le ratio de temps que tu mets entre ton temps de production artistique, mm-hmm. et ton temps de... Je sais pas comment appeler ça d'ailleurs.
Promotion.
Promotion, voilà. Et ton temps de promotion. Ouais.
C'est pour ça que je me fais aider pour la promotion. Déjà par Pierre.
Pierre Chandès, donc. Épisode
voilà.
17.
Voilà. Parce que je sens que, si, d'abord, chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Et puis, deuxièmement, je crois que c'est bien de ne pas être tout seul quand on est artiste. Parce que si on fait tout, bon, on peint, après on s'occupe de sa promotion, on peut se sentir très isolé. Et puis, peut-être même que l'activité de promotion risque à un moment donné de prendre plus d'énergie.
Tout à fait.
Voilà. Et là, je trouve qu'on se trompe d'objectif. Hein. Moi, mon objectif, c'est de peindre davantage, de peindre peut-être mieux, d'aller plus loin. Des fois, j'ai dit à Pierre, mes femmes sont... Ça va, mais elles sont un peu trop gentilles. Non pas que je veuille peindre des méchantes, mais bon, aller un peu plus loin, être un peu plus dérangé, peut-être un tout petit peu plus. Donc, tout ça, ça prend du temps et de l'énergie. Et je veux pas me détourner de cet objectif-là, qui est mon véritable objectif. C'est-à-dire de faire une peinture plus personnelle, plus affirmée. Je sais pas exactement. J'emploie ce terme sans avoir une idée très très précise de ce que je mets dedans. Mais c'est dans cette direction que j'aimerais aller faire quelque chose de plus affirmé. Peut-être dans la recherche des couleurs, peut-être dans la recherche des contrastes, peut-être dans les effets de matière, enfin voilà. Donc je veux pas me détourner de cet objectif-là par un hyper investissement dans la promotion.
Et au niveau de la technique, tu t'es formée? Est-ce que tu as été en école?
Alors, j'ai pas fait d'école, mais j'ai fait beaucoup de stages en été,
ouais.
Pendant très longtemps, j'ai suivi les cours pour amateurs du musée des arts décoratifs. J'ai travaillé avec des peintres en été. Il y a une association en Ardèche que tu connais peut-être, qui s'appelle le Moulin de Perrault.
Ouais, ça me dit quelque chose.
Voilà, où il y a des peintres assez reconnus.
C'est pas une résidence, il y a pas une maison.
Oui, c'est une grande maison, oui. et il y a des peintres un peu reconnus. Il y a Christophe de Bucher, il y a Georges Briatta qui est marseillais. Il y avait Philippe Lejeune qui font des stages. Mais je suis restée chaque fois sur ma faim. C'est-à-dire que je trouvais pas exactement ce que je cherchais. Donc un jour, je me suis dit que c'est seul dans mon atelier que j'arriverais peut-être à approcher ce que j'ai envie de faire. En même temps, c'était bien que je fasse ça parce que ça m'a donné quelques repères, mais vraiment, j'ai l'impression que c'était un peu plus d'ordre psychologique que technique.
Oui. Ouais, c'est ça. C'est que, quelque part, un autodidacte, il a toujours cette impression qu'il lui manque quelque chose, quoi. Toi, par exemple, tu décides de prendre quelqu'un pour gérer toute ta communication. Faut être quand même, je pense, avoir la tête sur les épaules pour prendre cette décision-là, quoi.
Ben, je sens d'abord que celui qui en a fait son métier le fera mieux que moi.
Oui.
Et deuxièmement, j'ai l'impression qu'on a tous une dose d'énergie et qu'après, à chacun de choisir à quoi il la consacre. Et moi, j'aimerais que ce soit à la peinture.
Mmh.
Après, en termes d'anecdote, je peux raconter quelque chose. C'est que un jour, avec mon mari, au Puce, on achète un tableau d'un peintre qui signe Géant. J-E-H-A-N. Qui fait des choses très, très colorées, très sympas. Il a une notoriété, voilà. Et il fait, lui aussi, des visages, mais des visages très stylisés, un petit peu enfantins, dans des couleurs très vives. Et par exemple, ce qu'on a acheté, nous, c'est un carré qui doit faire 1 mètre sur 1 mètre, dans lequel il a fait 16 petits visages d'hommes, de femmes. Tout ça est très coloré, c'est très joli. Et ce tableau, il nous plaisait beaucoup. Et il nous plaisait tellement qu'on voulait l'avoir à 2 endroits différents. Donc, je l'ai copié.
Okay.
Et ça, c'était à l'époque où je faisais pas mal de stages aussi. Et j'ai eu l'impression que j'apprenais beaucoup plus en le copiant, parce que j'ai compris comment il arrivait à faire certains effets de matière. J'ai compris qu'il mélangeait l'acrylique et le pastel gras. Ce que je veux dire, c'est que j'ai plus appris en copiant. Alors, je sais que c'est plus du tout dans l'air du temps d'apprendre aux élèves par la copie. Mais j'ai compris plein de choses en copiant que je n'avais pas forcément compris en suivant certains cours.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai travaillé un petit peu au Japon. Et là-bas, la copie, c'est normal.
Ouais.
Et même le fait de ne pas copier, ce serait presque avoir un peu un ego
un
manque de modestie, exactement.
Mmh.
Et en fait, tu commences finalement à créer des œuvres originales quasiment quand tu estimes que tu pourras pas aller plus loin. Donc en fait, le jour où tu sors de la copie, tu sais que toi, ta capacité, elle s'est arrêtée là, quoi.
Je pense qu'à une époque, on apprenait aux élèves par la copie. Et puis après, il y a eu un rejet de ce type d'apprentissage.
Ouais, il y a peut-être pas eu tellement un rejet, c'est que en fait, il y a le tube de peinture qui est arrivé, et puis la photo.
Mmh.
Qui a fait que en fait, les artistes, ils gagnaient leurs sous en faisant des portraits et des copies.
Mmh.
Puis qu'à un moment donné, ils ont dit bon bah non, c'est plus ça le. Maintenant, ce qui va être, ce qui va faire que t'es un artiste, c'est de l'originalité.
Voilà. Mmh. Mais même sur le plan technique, hein, parce que donc c'est en copiant ce Géant que je me suis mise à utiliser du modeling past.
Oui.
Et comme il y a plein d'aspérités, je me suis mise à passer. Mais c'est parce que je l'ai copié, hein. Et après, j'ai utilisé cette technique. Voilà, je tenais à le dire parce que je trouve que la copie apprend beaucoup.
Ouais.
Mm.
Donc copier, les gars, copier.
Voilà. Voilà. Et puis pourquoi pas, à un moment donné, cacher le modèle et puis continuer.
Ouais.
Copier au début et surtout après, à un moment donné de la création, laisser le modèle.
Mm. Alors, est-ce qu'on peut voir ton travail prochainement?
Prochainement, j'ai envie de plus montrer ce que je fais et de me plonger dans un grand. Parce qu'alors, il y a les expos, c'est génial parce que ça permet de voir la réaction de celui qui regarde à ce qu'on a fait. Bien sûr, j'aime bien les réactions que les gens peuvent avoir devant mon tableau. C'est très amusant. Il y a des gens qui disent elle, c'est une Asiatique. Ils voient des choses que j'ai pas mis. Ce que j'aime bien, c'est montrer pour ça, parce que les gens terminent le tableau.
Ouais.
Ils y apportent quelque chose. Donc ça me plaît bien. En même temps, très trivialement, les expos, ça, parfois, enfin, c'est ce que ça a eu comme effet des fois sur moi. Il manque un tableau. On se dit vite, il faut que je fasse un tableau de plus. Il faut que j'en accroche 15. J'en ai que 14. Alors vite, vite, on fait un tableau. Et là, on fait rien de bon parce que on se réfugie dans une forme de facilité qui est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, voilà, j'ai envie, là, pour 2020, de vider ma tête de cette préoccupation des expositions pour me consacrer à un peu une recherche pour tout en restant fidèle à moi-même, faire quelque chose d'un peu différent.
Mmh.
Voilà. Donc ça, c'est mon projet à court terme.
Okay. Et quand tu bosses comme ça, t'as des routines de travail?
Je ne sais pas quelles sont les routines des autres peintres. Je fais des choses qui sont peut-être mes routines de travail. Des fois, ce qui peut peut-être s'apparenter à une routine. Parfois, je fais des fonds quand je me débarrasse de la préoccupation du portrait. Et puis, j'essaie de faire des fonds intéressants. Et si le fond est intéressant, après, je rajoute ce qu'il faut pour que la figure féminine ressorte. Donc ça, c'est une façon de travailler. Après, ben, il y a autre chose. Je ne sais pas si c'est exactement une routine. J'ai envie, fin 2019 et 2020, de beaucoup regarder mes tableaux avec un œil critique. Ça, souvent, je le fais. Je les regarde et je suis très, très, très critique. Et je les corrige à main. Et parfois, ça donne des bons résultats. Ils ont décanté. Ça me fait penser des conseils de pâtisserie, là. Laissez reposer.
Oui.
Laissez reposer. Et après, tout d'un coup, on voit des choses. On voit des choses et on peut des choses.
Ouais, ouais. C'est drôle parce que quand je pose cette question-là de routine, je me rends compte que la routine, ça amène quelque chose de quasiment journalier. Mais moi, par exemple, je sais qu'après une expo, pendant quasiment 3 semaines, je peux pas bosser derrière. Je peux pas,
ouais.
Je peux pas peindre, dessiner ou sculpter.
Ah ben ça me fait plaisir d'entendre ça.
Et puis je sais aussi que en hiver, je mange du miel et je lis des livres. Bon, enfin, je suis.
Oui.
Voilà, enfin il y a des. C'est pas forcément des routines journalières ou quotidiennes, mais aussi dans l'année comment ça se passe. Je me rends compte qu'en fait il y a assez peu d'artistes qui se posent ces questions-là. Et très souvent d'ailleurs quand je pose cette question, c'est presque offensant. Il y a quelqu'un qui me dit non, mais je suis un artiste.
Je connais pas la routine.
Oui, si je veux pas travailler, je travaille pas. Et oui, mais en fait, peut-être qu'il y a des choses qui se dégagent plus que ce qu'on imagine. Maintenant que j'essaye de faire attention à ça, je me rends compte qu'il y a des choses que je fais à certaines périodes de l'année. Bon, moi, je suis plus sur l'année, mais pas à d'autres, et que du coup, ça me permet de mieux anticiper les manières d'exposer.
Alors, moi, quand j'étais plein pot sur mon activité de consultante, j'étais très frustrée de pas peindre. À l'époque, on avait des bureaux rue Caumartin et j'allais dans le centre commercial Saint-Lazare et j'achetais des bouquins sur la technique de la peinture. Toujours parce que en tant qu'autodidacte, j'avais conscience que j'avais des lacunes à combler. Donc j'achetais des bouquins techniques. Je crois que je peux ouvrir une petite librairie dans mon village parce que j'en ai des quantités astronomiques que je ne lisais d'ailleurs pas.
Ah oui.
Je les feuilletais, j'avais toujours envie de trouver la formule magique qui allait faire de moi un bon dessinateur ou un bon peintre. Donc j'achetais. Mais je pense que c'était de l'ordre de la compulsion.
Ouais.
Et puis après, je feuilletais un peu, je cherchais le truc magique qui allait me débloquer ma créativité et mon savoir-faire. Et puis, je ne le trouvais pas, donc j'en achetais un autre la semaine d'après. Je les ai toujours, ces bouquins, dans mon atelier, bien sûr. Et je les regarde jamais. Et comme je manque de place dans mon atelier, dernièrement, je me suis dit, c'est eux que je vais dégager en priorité.
Ouais.
Par contre, j'aime bien les bouquins, les monographies sur des peintres, sur ce qu'ils ont fait, parce que ça, je pense que ça nous nourrit, que ça nous inspire. Donc, j'ai tout un tas de bouquins sur des peintres les plus connus, jusqu'à des peintres qui sont un peu oubliés. Parmi les plus connus, bien sûr, je vais parler de Modigliani, des peintres un peu oubliés, peut-être que c'est moi qui les ai oubliés, mais des gens comme Cassignol, comme Brancion, qui ont peint beaucoup les femmes. Donc, de temps en temps, je les regarde. Je n'en copie aucun, mais ça me nourrit. Et puis, ce que je faisais aussi quand je peignais pas, je lisais énormément des écrits de peintres.
Ouais. T'en as un à nous recommander?
Des écrits de peintres ou sur les peintres. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon peintre préféré, c'est Pierre-Auguste Renoir, Mon père, par Jean Renoir. J'ai adoré ce bouquin. Il y a eu beaucoup de littérature sur Picasso. Donc j'ai lu beaucoup de choses de Picasso, sur Picasso. J'ai lu beaucoup aussi sur et de Salvador Dali, parce que c'est comme le personnage, ce qu'il écrit, parce qu'il a pas mal écrit,
oui.
Sur lui. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses sur Cézanne parce que ben, y a une proximité, hein, en tant que... Moi, j'ai fait mes études à Aix et le village où j'habite, il est à deux pas de la Sainte-Victoire. Donc, j'ai beaucoup lu sur Cézanne. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui me sont restées. C'est pour revenir au cycle de production. Et par exemple, moi, je suis frustrée de ne pas peindre davantage. Notamment parce qu'il y a une citation de Cézanne que j'ai toujours en tête et que je dois ressortir 10 fois dans la semaine quand on me dérange ou quoi, qui dit, c'est une anecdote, on raconte que un jour Cézanne est allé voir un copain peintre chez lui, à son domicile, et la gouvernante, elle a dit, ah, monsieur Untel, ah non, il est pas là aujourd'hui, il est à la chasse. Et Cézanne était profondément choquée. Et il a, comme on sait que c'était un grognon, il a grogné en disant « c'est pas normal qu'il soit à la chasse, un peintre, ça peint ». Et en lisant beaucoup d'ouvrages sur Picasso, sur Cézanne, tout ça, c'est vrai que c'était des types, ils faisaient que ça.
Oui, oui.
8 heures par jour, enfin, je crois que Cézanne, il s'arrêtait un peu le matin parce qu'il allait à la messe tous les matins, à la cathédrale d'Aix, mais sinon, c'est des gens qui peignent en permanence. Et pour moi, c'est un peu... je ne vais pas dire un objectif, hein, mais je me dis, tant que je ne peindrai pas 8 heures par jour, je ne serai pas un peintre.
Ouais.
Bon, c'est un objectif que j'atteindrai jamais. Hein. Et puis, quelque part, je n'ai peut-être pas envie, mais pour moi, c'est une sorte de ligne de conduite. Un peintre, ça peint. Voilà. Là, je me suis arrêtée, ça fait au moins... depuis l'expo à la galerie Thuillier, je n'ai plus peint. Par contre, je range mon atelier. J'achète des tiroirs, des trucs comme ça.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un artiste qui se lance ?
Oui, c'est peut-être la consultante qui ressort.
Ouais.
Moi, je pense que les conseils à donner, déjà, je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais en tout cas, je donnerai ce conseil, c'est de prendre un sujet et de s'y tenir.
Ah oui ?
Je pense que c'est bien. Parce qu'on est obligé d'avancer... Bon, si on fait des paysages urbains, on fait des paysages urbains. Si on peint des natures mortes, on fait des natures mortes. Voilà, moi je crois que c'est bien de prendre, quand on est dans le figuratif. À l'abstrait, c'est un peu plus difficile, quoique il y a différentes formes d'abstraction. Mais oui, moi je conseille ça, parce que je pense que ça aide à trouver son style, à trouver son identité, de se tenir à un sujet. Voilà. Après, je pense aussi, mais ça, je suis pas la seule à le dire, ça, de peindre, d'essayer de peindre en laissant les pinceaux de côté, avec tout ce qu'on peut inventer. Soit de peindre avec les doigts, soit de peindre avec des fourchettes, soit de peindre avec... je pense que à partir du moment où on fait ça, on est forcément un peu plus créatif.
Ouais.
On abandonne l'envie de faire des choses trop léchées. Voilà. Autre conseil que je donnerais, de beaucoup regarder ce que font les autres, pas pour les copier, mais beaucoup regarder, beaucoup se nourrir de ce que font les autres dans le même thème. Et puis, un dernier conseil, de laisser ces tableaux 6 mois dans un coin et après d'être le plus critique possible. En disant, c'est pas bon. Pour moi, ça, je le fais très spontanément. Je me dis, mais c'est normal que je ne l'ai pas vendu, ça. J'aurais jamais acheté ça, moi. Pour telle et telle raison. Ouais. Voilà. Donc, y aller, là, se défouler sur la critique.
Et reprendre si nécessaire.
Et reprendre. La peinture que je fais, bon, je ne fais pas de l'aquarelle, hein. La peinture que je fais, c'est très facile à reprendre. Et j'ai l'impression que plus on reprend, plus on crée des effets de matière, plus on peut inventer, on peut masquer des parties. Enfin, il me semble que je fais une peinture où c'est très facile d'y revenir. Ça m'est jamais arrivé de me dire je l'ai gâché, il était mieux avant.
Eh ben écoute, merci à Grasso.
Ça a été un plaisir.
Et donc on se revoit en 2021.
Allez.
Merci.
Merci, Leslie.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire à l'interviewé dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir, ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeons et Hirondelles, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeons.hirondelles, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeons-hirondelles.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.